Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cette phrase de Jésus dans Jean 10, elle fait référence à l'Église. Elle fait référence à nous. Alors, je sais pas comment vous vous sentez quand on vous dit que vous êtes un troupeau de moutons. Vous vous sentez à l'aise? Ça va? En général, quand on nous dit on est une bande de moutons, ça veut dire on suit le mouvement, ça veut dire on est un peu, comment on va dire, on n'a pas de volonté propre, en fait. On est un peu, on fait comme tout le monde, en gros. Mais en réalité, dans les représentations, quand Jésus dit ça, dans l'imaginaire des gens, il y a quelque chose de tout autre dans l'image du mouton. En fait, à l'époque de Jésus, si on veut être comparé à un animal, le mouton, c'est plutôt pas mal. C'est un animal qui a des privilèges assez incroyables, parce qu'il est soigné individuellement par le berger, il est connu et il est appelé par son nom. C'est aussi ce qu'utilise Jésus comme image pour parler de la relation au Père individuellement. Autrement dit, quand on lit que nous sommes les brebis de Dieu et que nous faisons partie de son troupeau, ça veut dire qu'en fait, Dieu, il tient fort à nous et qu'il entretient une relation avec nous et qu'il veut prendre soin de nous. Et je trouvais que la deuxième chose aussi qui était intéressante avec cette image, c'est qu'en fait, le mouton, c'est un animal qui est mobile, qui vit en plein air, qui n'est pas confiné. Je sais pas si ça vous rappelle encore quelque chose, ça. Les moutons, ils se déplacent là où il y a des pâturages. Et à la fois, ils vont suivre le berger, et à la fois, ils sont aussi agiles et ils sont vifs pour atteindre de nouveaux pâturages. Ils sont dans une forme de déplacement constant pour pouvoir explorer de nouvelles zones où le berger les emmène. Et la question que je me pose, et que je nous pose ce matin, c'est est-ce que finalement, en Occident, on n'a pas perdu un peu cette dynamique de l'Église du Nouveau Testament comme un troupeau de brebis qui est guidé par le berger? Ça veut dire, autrement dit, cette capacité à être prêt à s'adapter, à tenir compte des besoins, à aller vers de nouveaux pâturages, c'est-à-dire vers des nouvelles manières créatives de vivre l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que nous, chrétiens au XXIe siècle, finalement, on se retrouve dans des institutions assez figées, avec des habitudes finalement très codifiées, en fait, sur la manière de vivre l'Église. On est un peu comme des sédentaires de la foi. Et on a l'impression que nos églises, elles ressemblent de moins en moins à des troupeaux de moutons qui sont flexibles, qui sont évolutifs, et de plus en plus à Alors, ça va venir. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Voilà. À des troupeaux... pardon. Donc ça, c'était les troupeaux de moutons. Ils sont jolis, hein. Voilà. En fait, à des parcs d'engraissement de veaux. C'est peut-être un peu fort, mais en réalité, on est un peu chacun dans son enclos, chacun dans son monde, avec ses barrières. Et l'Église en Occident, en fait, c'est un peu l'endroit où on nous dit « Reste assis, ne bouge pas, écoute ce qu'on te dit, on va te nourrir, on va te dire quoi croire, on va te donner plein de choses, on va t'engraisser sur l'enseignement de la Bible, et au final, on accumule des cultes, des prédications en ligne. J'avoue que j'en fais aussi partie. » Mais si ça se traduit pas par des changements concrets, en fait, petit à petit, on perd cette capacité à s'adapter, à mettre en pratique ce qu'on apprend. On perd cette capacité, en fait, à changer d'attitude, à se convertir, en fait. Alors, est-ce que notre prière ce matin, ça pourrait pas être « Convertis-nous, Seigneur, change nos états d'esprit, change nos attitudes. » On veut pas simplement que nos églises deviennent des parcs d'engraissement spirituel. Mais au contraire, on veut être un troupeau de brebis qui soit agile, mobile et aussi créative, sachant qu'on est aimé par le berger et que l'on veut être le troupeau que Dieu attend de nous. Et pour ça, je vous propose de baser notre réflexion sur un texte qu'on retrouve dans Actes 2. Ce sont les tout débuts, on va dire les origines de l'Église, telles que Jésus l'a pensée et que ses premiers disciples l'ont mise en œuvre. Et j'invite Clémence et Anaïs à nous faire la lecture de ce passage.
Alors, du coup, ce passage, il prend place à la toute fin d'un discours de Pierre au peuple de Jérusalem. Alors, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, leur rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. »
Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire de chacun des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Merci pour cette lecture. Alors, avant de démarrer, une précision s'impose quand même. Parce que parfois, en lisant ces textes des premiers disciples de Jésus, l'Église des premiers temps, on a l'impression qu'en fait, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour refaire les choses telles qu'elles étaient avant ? Parce que finalement, c'est toujours mieux avant. Alors, je précise tout de suite, non, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas de faire un copier-coller en disant c'est exactement comme ça que ça a été fait de telle manière dans l'histoire et donc du coup, il faut le reproduire comme ça. Mais pour autant, je pense que s'inspirer de ce mouvement naissant des disciples de Jésus qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé et qui ont aussi été inspirés par son esprit, peut nous être utile. Non pas encore une fois en essayant de le copier tel quel, mais en essayant d'observer quels sont les principes universels et intemporels que l'on peut retenir et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à notre contexte aujourd'hui, en 2021. Pour pas que ce soit un exercice intellectuel, mais aussi pour pas que ce soit un discours théorique qui fait que, du coup, quand on arrive au repas de midi, après, à la fin du repas, on a tout oublié. Mais que ça puisse devenir aussi pour nous un levier, une manière d'actionner de nouvelles idées, de nouvelles manières de vivre l'Église, d'être flexible, comme on l'a vu tout à l'heure avec les moutons. Alors, je vous propose de parcourir l'essentiel de ce texte en vous aidant de vos mains, d'accord ? Alors, on va commencer avec ça. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule Église, celle de Jésus-Christ. On pourrait même rajouter dans le texte qu'on a lu, une seule promesse. Il y a plein d'endroits où il est dit, car la promesse vous a été donnée, et il y a une seule Église. Les images de la Bible liées à l'Église, elles sont toutes mentionné au singulier. Un troupeau, un corps, une épouse, une famille. Parce que pour l'Église, pour Jésus, pardon, l'Église s'inscrit au singulier. Et en fait, quand on regarde, c'est quand même bizarre parce que Jésus n'avait pas d'autre plan que l'Église pour mettre en œuvre et pour continuer ce qu'il a démarré. Il a mis tous ses œufs dans le même panier. Il n'a pas cherché à se diversifier. Aujourd'hui, probablement qu'il aurait, enfin, on aurait imaginé d'autres choses. On aurait imaginé des niches de marché en disant, bon, ben, alors, du coup, toi, Pierre, tu vas faire ci, et ensuite les autres vont faire ça, et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir essayer de toucher le plus de monde et tout ça. Non. Le choix de Dieu, c'était celui de construire et d'investir dans une église. Une communauté de croyants avec toute la diversité que ça représente. Et je pense que même si on a, dans l'histoire, rater la cible de nombreuses fois, pour le moins. Je crois que c'est important, en fait, de pas oublier ce projet initial de Dieu. tous ces gens différents, hommes, femmes, rassemblés pour être le corps de Christ dans le monde, pour être les témoins de Jésus, le sel de la terre et la lumière du monde. Alors après un, il y a deux espaces de rencontre. On lit dans Actes 2, 46, on le voit au-dessus, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. » On le sait tous, dans l'Église, on vit des choses différentes en fonction du nombre de personnes qu'on est, en fonction du cadre dans lequel on évolue. Et comme je l'ai dit, bien qu'il s'agisse de vivre l'unité du corps de Christ, les premiers chrétiens, ils avaient compris qu'il y a aussi des besoins qui sont différents. Et c'est aussi l'occasion de favoriser différentes dimensions de la foi et différentes expressions de l'engagement et de, on va dire, la relation à l'Église. Et là, il nous donne deux exemples. Le premier, c'est le temple. On va dire que c'est l'espace de la rencontre publique, en fait. C'est la représentation dans la société. C'est aussi l'occasion de l'enseignement, de la transmission des connaissances, de la connaissance, de la prédication, ce qu'on fait ce matin. Et puis, il y a les maisons. Les maisons, c'est le lieu de la communion, le lieu du dialogue. On n'est plus dans le monologue. Cette fois-ci, on prend la parole. C'est le lieu de la confiance, c'est le lieu où on peut venir tel qu'on est. On peut aussi échanger dans la réciprocité, en fait, de ce qu'on est. Et je crois que ces différents espaces, loin de s'exclure, en fait, ils se complètent parce qu'on a besoin de vivre les deux. Et je pense que ne vivre qu'une seule des deux expériences, en fait, c'est vivre une expérience incomplète de la vie chrétienne. Parce que si on vit que le dimanche matin, il manque un aspect, il manque une portion du puzzle. Et si on vit que le groupe de maison, il manque aussi cette dimension collective, cette dimension globale. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer aussi dans le cadre de notre projet d'église? Après deux, il y a trois. C'était les trois objectifs, ou en tout cas, trois objectifs de l'ecclésia, de l'église, de l'assemblée. Le premier est vraiment tout à fait intéressant. Et il fait le lien avec ce qu'on a déjà dit. Une passion pour l'unité. On a parlé de ce projet unique qui vient de Dieu, qui vient du cœur de Dieu. Mais au final, on doit bien avouer que, au travers du quotidien, de la réalité de la vie, ben, ça se passe pas forcément toujours comme ça, quoi. Chacun a sa vie, chacun évolue, sur des routes différentes, et puis c'est bien normal, hein. Et puis avec les circonstances, ben après, certains liens peuvent se défaire, certains avis peuvent diverger ou se partager, on n'est plus trop d'accord, bon, finalement, on va se faire chacun les choses de son coin, les églises se partagent ou se divisent, bon, on accepte les choses telles qu'elles sont, quoi. Et en fait, là, les chrétiens du premier siècle, ils nous laissent un enseignement assez incroyable. C'est celui qu'on trouve encore une fois, dans Actes 2, verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. » Qu'est-ce que c'est que ce « d'un commun accord » ? Comme ça, à première lecture, on pourrait se dire c'est un peu une sorte de société de la pensée unique. Tout le monde est d'accord, tout le monde marche dans le rang. Quand on vote, on est toujours à 100%, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, du coup, il faut repartir dans la langue originale. Il se trouve que, quand ils le disent, d'un commun accord, c'est un mot un peu particulier, qui est, en tout cas, je trouve, hein, très très intéressant. Il est formé de deux mots, en fait. D'un côté, c'est « homo », et l'autre, c'est « toumadon ». Donc, d'un commun accord, « homo toumadon ». Voilà, vous avez appris le grec aujourd'hui, super. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ?« Homo », c'est le même, c'est ensemble, c'est à l'unisson. On retrouve cette idée d'accord, en fait. Et toumadon, c'est, en fait, on retrouve dans d'autres parties de la Bible, c'est très surprenant l'association entre ces deux mots. C'est la colère. Par exemple, c'est utilisé pour dire quand quelqu'un se met en colère. Quand Jésus se met en colère, eh bien, on retrouve cet aspect-là. Quand il est dit que la colère de Dieu, ou que le jugement de Dieu, enfin, on parle de colère et de jugement, on utilise le même mot. La colère. Et qu'est-ce que la colère et la communion ont à voir entre deux? En fait, ce mot-là, c'est une manière de dire la passion du vivre ensemble. C'est une manière de dire « je suis différent de toi, ok, je l'admets, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir maintenir l'unité et le lien qu'il y a entre nous. Ça veut dire je ne vais laisser rien se mettre entre nous et rompre ce lien d'unité qui nous unit. Et s'il faut, entre guillemets, je me mettrai en colère contre ce qui va menacer notre unité. C'est fort, hein ? C'est une manière de dire « je fais pleinement partie de la famille et du coup, je veux défendre coûte que coûte ce qui nous lie », en mettant l'accent du coup sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. C'est ça, homo tumadon. Est-ce qu'on a toujours cette attitude-là de se dire ben, « recherchez d'abord avant tout ce qui nous unit avant de chercher ce qui nous divise ». Et c'était la passion, c'est l'enseignement que nous laissent aussi les chrétiens du premier siècle, hein, cette passion pour l'unité. On retrouve aussi la passion pour la persévérance. Je m'attarde pas trop, mais il est dit à deux reprises, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et ainsi de suite. Et donc ça, c'était acte 2, 42. Et puis, on retrouve notre verset 46, à chaque jour, avec persévérance, avec constance, avec fermeté aussi, il y a cette idée. Et enfin, une passion pour la simplicité. Je ne sais pas si, j'imagine que vous avez peut-être déjà lu ce texte, et je ne m'étais pas rendu compte, en fait, ce sentiment de grande simplicité qui s'en dégage. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur propriété et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous. En fait, on a l'impression que ça coule de source, en fait. On se dit, mais c'est pas possible, il n'y en a pas certains qui se sont dit, c'est un peu compliqué, moi j'ai ma famille, je peux pas... Je peux pas faire ça comme ça du jour au lendemain. En tout cas, ça donne cette impression comme si, en fait, se séparer de ses biens, vendre sa maison, ça pouvait aller de soi, en fait. C'est un peu surprenant. Et cette passion pour la simplicité, en fait, elle s'articule autour de deux mouvements, on pourrait dire. D'un côté, il y a cette idée, finalement, de se débarrasser de tout ce qui peut nous encombrer. Parce que être dans la simplicité, c'est avant tout faire de la place. Pour vivre un engagement réel et sincère avec le Christ et avec son corps. Faire de la place et se débarrasser. Et de l'autre côté, il y a aussi cette idée d'offrir volontairement et avec joie ce qui peut contribuer à favoriser à la fois l'unité et à la fois l'égalité entre les croyants. Et dans le texte qu'on a lu, ces deux mouvements-là, à la fois faire de la place et à la fois partager ou s'ouvrir, favoriser l'unité et l'égalité, en fait, ils ont pour conséquence directe la mise à disposition de deux choses qui probablement aujourd'hui sont les plus difficiles et les plus coûteuses pour nous à partager. C'est le temps et c'est les biens matériels. Ils avaient compris que les biens matériels, ça peut être des outils au service de ce nouveau projet qu'est l'Église, et que le temps aussi, se mettre à disposition, c'était aussi un outil qui était important. Et on le retrouve, par exemple, je crois que je l'ai pas mis, mais en fait, dans la dimension de chaque jour, il se retrouvait. Si chaque jour, c'est pas donné de son temps, c'est et dans cette manière de donner même ce qui peut paraître essentiel. Et finalement, nous, c'est quoi nos passions ? Est-ce qu'on est aussi inspiré par cette passion pour l'unité, cette passion pour la persévérance et cette passion pour la simplicité? Et dans toutes ces dimensions-là, je relèverai aussi encore quatre états d'esprit, je ne vais pas tous les détailler, ça pourrait être intéressant aussi de le faire en groupe de maison éventuellement. C'est quatre états d'esprit qui les imprégnaient en fait dans tout ce qu'on a décrit. Il y en a un qui est un peu surprenant, que je me permets de souligner en premier, en fait, c'est la crainte. Il est dit que la crainte s'emparait d'eux. La crainte s'emparait d'eux. Alors, à la première lecture, comme ça, on pourrait se dire qu'il s'agit d'évoquer l'emprise qu'ont les apôtres, qu'ils exercent sur la nouvelle communauté. Ils exercent une sorte de poignée de fer, un peu comme dans certaines dictatures. Ils font régner un climat de crainte pour obtenir la soumission et l'obéissance. Et en fait, quand on lit le texte, c'est pas du tout ça dont il s'agit. On retrouve cette dimension de la crainte dans un autre passage, qui me semble être très significatif par rapport à ça, c'est quand les femmes vont au tombeau, et c'est Matthieu qui nous relève ça en Matthieu 28, hein, elles arrivent au tombeau, elles voient que le tombeau est vide, et du coup, elles rencontrent l'ange, et à ce moment-là, l'ange leur dit « mais il est ressuscité ». Et alors à ce moment-là, voilà ce que Matthieu nous dit. Matthieu nous dit « elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie ». Les deux sont liés, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ce qui fait la différence entre cette crainte-là et celle que l'on connaît d'habitude, c'est que ce n'est pas une crainte basée sur la peur, ce n'est pas une crainte qui paralyse, au contraire, c'est une crainte qui met en mouvement. C'est une crainte qui pousse à l'action, en fait. Et c'est une crainte qui est associée à la joie, et pas à la peur, et pas à la tristesse. Et on retrouve cette deuxième dimension-là, en fait. Au final, associé à la crainte, il y a la joie. Il est dit que ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On retrouve cette dimension de la joie, de la simplicité. Et je crois que c'est important aussi, notamment dans cette dimension de dire la simplicité, le fait de se débarrasser et tout ça. Si on le fait pas avec joie, ça, je pense, en tout cas, pose un problème et ça pose une question. Ils vivaient aussi dans un état d'esprit de partage, et on l'a déjà mentionné. Et je crois que c'est vraiment pour nous, aujourd'hui, un appel à être anticonformiste avec ce que la société nous enseigne, à vivre en décalage avec ce que la société nous enseigne. Et enfin, la louange. Et c'est un rappel, donc il est dit qu'il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Je crois que c'est vraiment là un aspect pour nous rappeler que la louange, c'est pas juste un temps du culte. Bon, maintenant, on va passer au moment de louange, voilà. Non, la louange, c'est ce qui imprègne toutes les dimensions de nos vies. C'est ce qui imprègne nos décisions, c'est ce qui imprègne nos relations aussi les uns avec les autres. Voilà, après 4, il y a 7, désolé. Donc, pour ceux qui s'attendaient à ce que ce soit 5, c'est 7. Et en fait, c'est ce qu'on va approfondir maintenant dans la deuxième partie du culte. C'est les 7 accents de l'Église naissante qu'on aura le temps d'approfondir maintenant. J'en dis pas plus, parce que les jeunes vont vous le... et Thomas va nous l'introduire et ça va se dérouler tout doucement. Alors, comment est-ce qu'on conclut ? J'aimerais terminer par vous poser une question. D'où viennent les grâces que Dieu fait abonder sur chacun de nous ? Autrement dit, comment Dieu est-ce qu'il s'y prend pour répandre ses bénédictions? Il y a de multiples façons d'être béni, de plein de manières, mais je crois que le principal moyen qu'utilise Dieu pour faire abonder ses grâces en nous, en fait, c'est par les personnes, par les gens, par son peuple. Et on retrouve ça comme un fil conducteur dans tout le Nouveau Testament. Dieu fait abonder ses bénédictions au travers des gens, au travers des personnes. Alors certains pourraient dire aussi, mais finalement, il y a aussi directement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il agit dans nos vies, on le reçoit comme ça directement. Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est bien Dieu qui nous l'accorde. Hein. Le Saint-Esprit, absolument. Et je pense que ça va dans ce sens-là. Il peut nous remplir directement de sa grâce. Mais je crois que l'enseignement du Nouveau Testament, c'est qu'il nous remplit de sa grâce, il nous imprègne de ses bénédictions afin que nous puissions les donner aux autres. C'est le principe de la grâce entremêlée, du méli-mélo de grâce. Dieu te remplit directement de son esprit et Dieu te remplit directement de ses grâces qu'il a l'intention de donner à quelqu'un d'autre. Il me remplit, moi, des grâces qui sont destinées à vous, à telle ou telle personne. Et ensuite, en fait, il va nous pousser tous ensemble, les uns avec les autres, en communauté, pour que nous partagions ces grâces les uns avec les autres. Très concrètement, vous avez des grâces en vous qui ne sont pas à vous. Dieu n'a pas prévu que vous les gardiez pour vous, mais il vous les a données pour que vous les partagiez à quelqu'un d'autre autour de vous, à des membres de votre famille, à quelqu'un de votre entourage, à des gens de l'Église, des membres de l'Église. Nous avons tous des grâces en nous que Dieu nous offre pour que nous les partagions à d'autres. Un verset qui est clé là-dedans, c'est dans 1 Pierre 4, au verset 10, où Pierre, il exhorte l'Église en disant « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres, le don que vous avez reçu. » Chacun de nous a reçu une forme de grâce, directement. Mais vous avez reçu ce don de grâce pour que vous puissiez le développer afin de le donner aux autres. Pour que nous devenions, je reprends les mots de l'apôtre Paul, pour que nous devenions des gestionnaires, en fait, des économes des diverses grâces. Il y a plein de grâces, il y a plein de manières dont lesquelles, avec lesquelles Dieu va agir. Et nous sommes appelés à être des intendants de cette grâce-là, pas des propriétaires. Elle ne nous appartient pas, la grâce. Au contraire, on la fait passer en nous et on la redonne aux autres. Et alors, dans la suite du texte, ce serait intéressant de le poursuivre, mais en fait, il parle des deux dons principaux. Tous les dons peuvent être résumés dans ces deux dons-là. Le premier, c'est le don de la parole, ou les dons de la parole, on pourrait dire, et le deuxième, c'est le don du service. Si quelqu'un parle, alors j'ai pas le texte, mais si quelqu'un parle, qu'il annonce des paroles révélées de Dieu, et si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. C'est ça l'essentiel. Et après, elles prennent différentes facettes, en fait, ces expressions des divers dons dont nous sommes appelés à gérer les biens, sachant qu'ils appartiennent à Dieu. Il y a un autre verset qui est extrêmement parlant, et c'est très très bien résumé avec ça, c'est Éphésiens 4:16. Je prends une traduction qui est un peu modifiée pour mieux pouvoir comprendre. Sous sa direction, donc la direction de Jésus, tout le corps est parfaitement ajusté. C'est cette image du corps qui se bouge, qui se mobilise. Et c'est là l'essentiel. Alors que chaque partie fait son propre travail, elle aide cette partie-là, les autres, à grandir, pour que le corps dans son ensemble soit en bonne santé et grandisse dans la cohésion et l'amour. Il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin de trouver mon identité pour que je puisse grandir, pour que je puisse me développer ». Oui, on va grandir, on va se développer. Mais dans la perspective de l'Église, je trouve ma place et je trouve mon identité pour que le reste du corps puisse grandir. Parce qu'on a besoin les uns des autres et on a besoin de ces grâces que Dieu nous a confiées afin que nous les partagions à d'autres. Alors, on a l'impression comme ça, quand on l'entend, que Dieu, il est un peu éloigné, il donne les grâces et puis au final et tout. Mais en fait, Dieu, il participe aussi activement à ce processus au quotidien. Et je vais terminer avec cet exemple très fort que l'apôtre Paul lui-même mentionne. C'est une période où Paul, il est fatigué. Il est désespéré. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin des grâces de Dieu. De se remonter le moral, si on peut dire. Il a besoin d'être réconforté et il crie à Dieu, il dit, Seigneur, je accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton réconfort. Et c'est assez surprenant la manière dont Dieu répond. Au lieu que Dieu dise, OK, je te donne mon esprit, je déverse mon esprit sur toi, tu seras raffermi, tu verras, ça va aller mieux. Au lieu de ça, voilà ce que Paul nous dit, 2 Corinthiens 6, verset 7. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. La réponse de Dieu aux besoins de Paul, en fait, c'est l'arrivée de Tite. En fait, Dieu, il est en train de lui dire, tu m'as appelé pour que je te réconforte, ben, j'ai envoyé Tite pour le faire à ma place. Ou plutôt, pour être en partenariat avec moi dans ce réconfort que je t'accorde. Et Paul, il le voit. Et quand il voit arriver Tite débarque, et là, waouh, merci Seigneur, au travers de Tite, je vois ta main. Et je trouve que c'est une réalité qu'on peut expérimenter dans plein de situations. On en parle souvent, en fait, mais quand on dit... ça me concerne un peu, mais quand on dit par exemple il a été guéri par la main du chirurgien, ben c'est ça en fait, c'est exactement ça. Ou bien alors, j'ai été réconforté, j'ai été encouragé par telle ou telle personne. Dieu, il agit au travers des personnes, et je pense que c'est même son moyen numéro un d'expression et de communication les uns avec les autres. J'aimerais nous laisser deux questions pour terminer. Première question: est-ce que tu es conscient que Dieu te remplit de grâce qui sont destinés à d'autres. Dieu te remplit de ses grâces que tu es amené à donner à d'autres. Et quel est le prochain pas que je dois entreprendre, que tu dois entreprendre pour aller plus loin dans cette découverte-là? Est-ce que c'est tout simplement découvrir son don? Ça peut être ça aussi. Découvrir qu'est-ce que Dieu m'a confié. Est-ce que c'est le développer? Est-ce que c'est une manière de le mettre en pratique? Est-ce que c'est aussi après une manière de trouver à qui il s'adresse et comment est-ce que je peux être au service? Comment est-ce que je peux le communiquer? Ça s'adresse à chacun de nous individuellement. Et la deuxième question que je nous pose aujourd'hui, c'est, et finalement, dans notre communauté, dans notre église, là, je parle de l'église évangélique de Vendeuvre, quelles sont les structures, quelles sont les occasions que nous avons de participer et de favoriser ces échanges de grâce, ces échanges de bénédiction, pour qu'on ne garde pas pour nous ce que Dieu a prévu pour d'autres. Autrement dit, où est-ce que je vais dans l'église pour donner mon don, pour donner mes grâces et pour y recevoir les grâces que Dieu a prévues pour moi au travers des autres? Ouais, c'est deux questions que je vous laisse comme ça et qui seront peut-être amenées aussi à nous faire réfléchir. Alors que Dieu nous aide à être créatifs, à être imaginatifs, à être aussi agiles, flexibles, comme nos fameux moutons, et qu'il puisse nous inspirer à vivre pleinement l'Évangile et vivre pleinement son Église. Amen.